Les invités du podcast Diptyque sont artistes, galeristes, curateurs, conservateurs de musées. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. D'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de capter ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain arabe et africain. Le podcast Diptyque vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir le cinéaste et photographe Daoud Aoulad Sied. Ses films se situent entre fiction et documentaire, et toujours au plus près de la réalité. Mais ce qui le caractérise, c'est, malgré ce contexte réaliste, la possibilité de la poésie et du rêve. Donc, suivant ce même credo dans ses photographies, qui sont reconnaissables à leur force graphique, vous savez toujours que vous avez affaire à une photo de Daoud. Et on essaiera dans cet épisode de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on est devant une photo de Daoud Aoulad Sied. Donc, dans ses photographies, il témoigne d'un attachement particulier à la culture populaire, aux arts forains et à la mémoire collective. Ses travaux ont été exposés à la Maison européenne de la photo. C'était en 2016. Et c'était une exposition qui était présentée dans le cadre de la première biennale des photographes du monde arabe à l'initiative de l'Institut du monde arabe et de la Maison européenne. Au Maroc, il est représenté par la Galerie 127 à Marrakech, Nathalie Locatelli. Et pour préparer cet épisode, je me suis beaucoup inspirée des textes de Mouna Mekwar, les textes donc, qu'elle avait écrits à l'occasion de l'expo dont elle était commissaire à la MEP, ainsi que le très beau livre qu'elle lui a consacré. Voilà, donc en fait, Daoud, bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Au cinéma comme en photographie, tu montres un attachement particulier à la culture populaire et aux arts forains. Est-ce que tu peux nous introduire à ton univers et nous expliquer comment et pourquoi il peuple ton récit ?
Ben, normalement, c'est venu comme ça. J'ai jamais réfléchi à ce que je fais, moi. C'est toujours l'instinct ou des choses qui arrivent comme ça. Moi, je me suis toujours attaché à mon enfance. Moi, j'ai grandi juste à peut-être à 500 mètres d'ici où on est là, juste à Riyad Zetoun qui est juste à côté. Donc, moi, j'ai grandi à la place du Jemaa el Fna. J'avais mon école primaire qui était juste, le Qnariya, qui est juste à la place du Jemaa el Fna. Donc, je traverse Jemaa el Fna 4 fois par jour à l'époque, dans les années 60, 70. Et donc, c'est ce monde-là qui m'a habité, mais inconsciemment. Parce que j'étais un studieux élève, je travaillais bien à l'école et tout ça, mais en même temps, j'habitais dans un quartier populaire et donc je me suis beaucoup peut-être imprégné par tout ce monde. Et c'est vraiment tard, très tard, hein, vraiment vers 25 ans, 26 ans, que je suis retourné à mon enfance. C'est-à-dire, moi, maintenant, je suis encore un enfant, c'est-à-dire, j'ai fait la boucle. Et c'est là où je me suis retourné à mes racines qui me travaillent toujours, qui m'ont habité. Dans le domaine d'abord photographique que j'ai appris et je rends hommage à tous mes enseignants, les gens qui m'ont transmis cet amour de l'image. Et après, j'ai retranscrit ça, mais d'une façon qui est venue comme ça, dans le cinéma, parce que la photographie, il manquait le son. Et j'ai toujours, moi j'adore le son, parce que pour moi le son, c'est beaucoup plus important que l'image. Parce que dans le son, il y a l'abstraction. Et donc, dans le cinéma, j'ai trouvé donc, cet équilibre-là entre image, son et autre chose.
Alors justement, je suis toujours très émue par la composition de tes images. Il y a souvent trois personnages qui fonctionnent tous comme le début d'un récit. Donc là, on va essayer de comprendre vraiment le passage de l'image fixe à l'image mouvante. On est pris aussi dans l'instabilité entre ta subjectivité et quelque chose qu'on perçoit comme une fonction documentaire. Est-ce que tu dirais que tes photographies et ton cinéma sont plutôt de l'ordre de la fiction ou de la réalité? Et comment ça se travaille, ce va-et-vient?
C'est de la pure réalité, parce que moi, je travaille sur le réel. Moi, je n'imagine rien. C'est-à-dire, sinon, je devrais être un peintre ou un plasticien. Moi, je travaille sur les gens. Moi, là, j'arrive ce matin pour prendre mon badge. J'avais déjà mes caméras dans mes yeux, je n'avais pas mon appareil photo. Mais je commence un peu dans ce chaos, parce qu'il y a beaucoup de monde, à essayer un peu de fragmenter et de trouver mes images. Donc moi, je me travaille sur le réel. Mais j'essaie quand même d'aller au-delà du réel, parce que moi, illustrer le réel, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est-à-dire le réel, mais un petit peu le transgressé d'après ma vision et d'après tout ce que j'ai appris aussi en photographie, parce qu'il y a tous les maîtres avant moi qui m'ont imprégné. Donc il y a toujours ce va-et-vient, parce qu'au départ, lorsque j'ai commencé à photographier, j'ai commencé avec, comme tout le monde, j'ai photographié des pigeons, des bicyclettes, des affiches, des murs, des choses comme ça. Et petit à petit, bien sûr, en s'inspirant de ces maîtres qui nous ont précédés avant et qui ont fait des expériences. Moi, je suis un scientifique, donc moi, mon travail, il est basé sur l'expérience. Donc, tous ces photographes avant moi qui ont expérimenté tout ce monde, donc j'essaie, moi, de le un peu transcender et de le voir à ma manière et à ma culture aussi, de quelqu'un qui vit dans cet espace-là et dans ce lieu-là. Voilà.
Est-ce que tu peux nous, justement, est-ce qu'on peut faire un petit flashback? Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait ta formation? Comment tu as vécu ces années de formation à partir d'un œil qui est déjà exercé par peut-être par un sens particulier de l'observation qui est le tien, par la rue Marakchi évidemment, qui est très porteuse de micro-récits qui s'enclenchent toutes les secondes. Comment s'est fait ta formation?
C'était le pur hasard. Hein. Moi, dans toute ma vie, jusqu'à maintenant, moi, je crois beaucoup au hasard. Même je suis scientifique, je dis, je suis irrationnel. Je dis, moi, j'ai jamais vu de photo. Moi, dans ma maison où j'ai grandi, il n'y a pas de livre. Moi, ma mère, elle est analphabète, mes sœurs sont analphabètes. Mes amis sont plutôt... je vis dans un monde où il n'y a pas de culture. C'est-à-dire, moi, j'habite vraiment le quartier populaire. Et donc, moi, j'étais à l'école. Donc, pour moi, j'étais à l'école, mais j'étais comme ça, je travaillais. Et puis après, je suis parti pour faire mon doctorat en France.
Ouais. Et scientifique,
en physique fondamentale et en mathématiques. Donc, c'est là où je me rappelle, les jeudis, il y avait le jeudi ouvert de galerie. Et moi, avec mes amis à l'université, parce qu'on habitait à la cité universitaire, on va faire le tour des galeries le jeudi soir, mais nous on va aller pas pour voir les expos et pour après, on va aller pour manger et pour regarder les jolies filles, pour draguer les jolies filles. Donc c'était ça un peu notre sortie. Et un jour je rentre dans une galerie, c'était à Nancy, à la place Stanislas, je me rappelle très très bien, je rentre et puis comme d'habitude en tournée, et puis hop, je commence à lever ma tête la première fois où j'ai vu des photographies accrochées en noir et blanc. Tellement simple, c'est ça, je me rappelle très bien de ce que j'ai reçu, c'est pas des choses compliquées, c'est des choses, ces images me rappellent mon quartier et là où je vis.
C'était quoi comme exposition?
C'était l'exposition, je vous raconte, après j'arrive, donc je regardais des images des gens dans la rue, au café, comme la famille, dans une maison, c'est comme chez moi, c'est-à-dire moi, et vraiment là, à ce moment-là, je dis... Eh bien, moi, c'est ça ce que je vais faire.
C'est ça ce que je vais faire.
Alors que je n'ai jamais touché un appareil photo, je n'ai jamais vu un livre, je n'ai jamais lu un roman. J'étais vraiment comme
Taïb
Stekler, où il m'a dit, j'étais vierge, vraiment, well ou rien. Et le lendemain matin, donc, je suis allé avec ma femme, là, qui est avec moi, Cécile, qui était aussi à l'époque.
Déjà.
On était allé à la FNAC et j'ai acheté mon appareil photo.
C'était quoi comme appareil?
C'était un petit appareil Zenith. Ouais. C'est une marque russe. C'était le basique, mais vraiment la moins chère, parce que je n'avais pas d'argent.
Ouais.
Sans mode d'emploi, sans rien. Et je commençais à apprendre. Et ce que j'ai toujours dit, et ce que j'ai initié après ce que je suis retourné, c'est à la cité universitaire, au campus, on avait un club de photo. Donc nous, on s'inscrit là-bas, et puis il y a les anciens qui commencent à nous donner les biaba, comment on développe, tout ça. Et je commençais petit à petit. Et je me rappelle, 12 ans après, 12 ou 13 ans après, j'ai monté une expo à l'Institut du monde arabe. Et c'était une grande expo avec... deux des plus grands photographes du monde. C'était Bruno Barbet et Harry Gruyart, qui travaillaient beaucoup sur le Maroc, qui étaient à l'agence Magnum.
Magnifique et photographie
donc,
sur le Maroc.
J'ai adoré. Oui, oui. Les deux, qui étaient vraiment comme mes collègues, ils me disent. Absolument. Et donc, eux, comme ils photographient le Maroc en couleur, parce que le Maroc, c'est vrai, c'est très difficile de photographier le Maroc en noir et blanc.
Oui.
Le Maroc, c'est la couleur, hein, c'est la
tu
lumière.
Tu évacues tout ce qui...
Et,
tout
voilà.
ce qui...
et c'est de la lumière. Et là... Et là, à ce moment, donc, et on a fait une grande expo, je me rappelle. Moi, j'ai montré mon travail noir et blanc, ouais. Et eux, ils ont montré les couleurs. Et comme eux, ils appartenaient à Magnum, qui est la plus grande agence de photographes, parmi les invités qui sont venus assister donc au vernissage, il y avait ce grand photographe à qui j'ai vu ses photos. Et ce photographe, c'était Henri Cartier-Bresson. Et ce soir-là, je me rappelle, était avec sa femme, Martine Franck. Et ce soir-là, il m'a dit, Daoud, il faut absolument que tu viennes dîner chez moi. Moi, je t'invite. Et il n'a pas arrêté de me parler et tout ça. Et j'ai passé une soirée avec lui formidable. Et puis, à partir de ce moment-là, je lui dis,
Qu'est-ce qu'il a perçu dans tes photos, Cartier-Bresson?
Il m'a dit que j'étais...
On parle toujours de ce lien de ta photo avec Cartier-Bresson.
C'est très rare.
Ouais.
Je crois qu'il y a un seul photographe qui l'a écrit. C'était Joseph Koudelka. C'est ouais. Le seul. Et je crois, moi, parce qu'il a écrit un petit mot sur moi, comme quoi j'étais un peu dans sa continuité. Et j'ai adoré ça. Il l'a écrit, hein. J'ai un magazine
oui,
où
oui,
il l'a
connais,
dit.
Oui, je connais ce texte.
Il a ça, ouais. Ce qui est rare, parce que lui, il ne parle pas, il ne dit pas... Ouais. Il ne parle jamais de sa photographie. Et lui, ce qu'il m'a dit, Daoud, moi je vois en toi quelqu'un de brut. C'est-à-dire, ouais. Pas d'influence. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais rien. C'est-à-dire, bien sûr, après je me suis formé. C'est-à-dire, après j'ai lu, après je me suis documenté, j'ai regardé. Après, je suis plongé là-dedans, mais vraiment carrément.
Comme un scientifique, découpant la réalité.
Et comme j'étais cartésien et bien ordonné. Donc j'y étais allé. Et puis c'était un peu comme ça. Et à l'époque, le Maroc, je me rappelle très bien, lorsque je suis rentré ici, parce que j'étais à l'université Mohamed V où j'enseignais, j'ai adressé dans ma chambre une carte de tous les moussems, de toutes les fêtes au Maroc. À l'époque, c'était 81. Et donc, j'ai parcouru tous ces moussems-là. Et je me rappelle, j'étais presque le seul photographe marocain, à l'époque, il y a 40 ans, à avoir un appareil photo. Il n'y avait que des étrangers ou des photographes comme Bruno Barbet ou... Ouais, ces grands photographes.
J'ai vu des photos de toi jeune avec ton
oui,
appareil
voilà.
photo.
Et là, je commençais comme ça. Et puis, c'était... Et le cinéma, il est arrivé aussi par hasard.
Mais il est arrivé après la
photographie. Après peut-être une dizaine d'années. Après, ou une douzaine d'années. Voilà.
Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Parce qu'en fait, évidemment, quand on lit des textes sur toi, la référence est presque permanente à Cartier-Bresson, évidemment à Robert Franck ou Richard Avedon. Et en fait, moi, j'aimerais comprendre comment
tous ces grands, là, franchement, si on compare à ça, c'est quand même... Mais c'est difficile.
Non, mais c'est réel. Et j'aimerais bien comprendre comment tu construis de la poésie dans tes images. Est-ce que c'est... Comment est-ce que tu construis tes images, déjà?
D'abord, je construis les images, d'abord, avec une culture. Parce que moi, je trouve que en étant cinéaste, ou photographe, ou quel que soit, si on ne lit pas, si on ne regarde pas, si on ne voit pas de films, si on ne regarde pas les magazines, c'est ça la richesse. On peut rien faire comme ça, c'est-à-dire jamais.
C'est très
donc,
important ce que tu dis.
Ah
tu
bah
construis
oui.
avec de la culture,
ah bah oui.
de la culture visuelle.
Ah bah, et de voir, donc ça c'est sûr. Donc dans tous les domaines, il faut avoir une certaine culture, surtout dans ce milieu. Et puis avec ça, moi je dis, il y a tout ça, tout est fait déjà pour moi. Dans le cinéma ou l'image, tout est fait.
Oui, mais pas tellement sur l'imagerie marocaine populaire.
Voilà,
donc là, alors comment tu as fabriqué cette
Et moi je dis, j'ai appris tout ça, c'est-à-dire cette théorie-là, et j'essaie d'avoir mes fondements comme mes racines, qui vont plonger dans mon quartier, dans mon univers, dans mon tout. C'est ça ce que j'aime.
Donc tu articules tes propres racines.
Tout. Moi, par exemple, je reçois à l'époque beaucoup de commandes, mais maintenant dans le cinéma, ils me demandent d'aller filmer, par exemple, des bourgeois.
Ouais.
À Marrakech, une fois, ils m'ont demandé de faire, par exemple, tous les palais, les maisons, les grands hôtels, même Montréal. Mais moi, je ne peux pas faire ça.
Ouais. C'est pas ta
c'est pas moi. C'est-à-dire, techniquement, je peux le faire extraordinaire, techniquement. Ouais. Mais il n'y a pas d'émotion.
Ouais.
Moi, l'émotion, c'est pour cela que tous mes films sont dans le sud.
Parce qu'il y a une organisation du chaos dans tes images qui est très perceptible. Oui. Et en fait, j'aimerais, par exemple, revenir sur une photo en particulier. On voit une femme avec un voile,
oui.
un homme un peu vieux à ses côtés et un troisième personnage.
Oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu construis, combien il y a d'images autour de celle-ci que tu évacues pour garder celle-ci?
Ah ben, je n'en ai pas beaucoup. C'est-à-dire moi...
Oui, tu travailles en argentique, donc on ne bombardait
à l'époque,
pas à l'époque.
C'est-à-dire, heureusement à l'époque, parce que maintenant on travaille au numérique, c'est dommage. Mais à l'époque, moi un jour, parce que là j'ai un livre toujours je porte dans mon... Je vais sortir un livre. Et dans ce livre-là, je vais mettre des planches contact.
Ouais.
C'est-à-dire où on voit un peu. Et dans cette image-là que vous avez parlé, je crois que j'en ai 4 prises. Et parce que j'étais là, j'étais à 1 mètre, même pas comme nous,
ouais.
Donc, avec mon appareil. Donc j'étais là vraiment, là. Et c'était dans, je crois, c'était les années 80. Donc
ouais.
C'est tout le temps. Et ce que j'aime beaucoup, cette femme qui me regarde à travers,
ouais, à travers son voile
et qu'elle est belle,
très,
elle
très
était
belle.
Maquillée, elle avait des beaux yeux.
Cette photo,
et ce monsieur-là
à côté
qui me regarde, mais elle qui me regarde, je trouve que c'est magnifique. Et en plus, moi, je trouve, moi, elle est protégée par son voile,
ouais.
Et moi, je suis protégé par mon appareil,
par photo. Appareil
photo. Mais c'est des choses que je photographie, je ne réfléchis pas.
Alors, il y a une autre chose qui me frappe dans tes images, c'est qu'on a toujours, elles sont très chargées en récit. On a toujours l'impression que c'est l'image, que c'est un style d'un film qui existe, qu'on a vu peut-être, ou qu'on imagine. En fait, c'est des réservoirs pour inventer des fictions extraordinaires. Et à chaque fois qu'on voit une de tes images, elle arrive avec son potentiel de créer un long métrage d'une heure et demie. Et je ne sais pas d'où vient cette puissance de ces images et pourquoi elles sont tellement chargées en fiction. Et ce sont des fictions justement qui n'existent pas,
oui.
Parce qu'on a, une très grande pauvreté justement dans l'écriture des fictions dans notre pays, on n'a pas tant que ça. Et en fait, j'ai envie de dire, mais jeunes cinéastes marocains, prenez chaque image de Daoud, c'est le début d'un,
oui,
film. Là, c'est le début d'un récit sur le mariage rural. Il y a des départs comme ça en taxi où on voit un petit groupe de personnes avec un personnage qui part dans un taxi et on imagine X fictions possibles. Comment ça se passe pour toi ?
Ben, moi, sincèrement, ça se passe inconsciemment. C'est-à-dire, c'est ça. Moi, je ne réfléchis pas lorsque je fais mes photos. C'est après. C'est aux critiques, aux gens qui interprètent.
Oui.
Mais ils sont ouverts. Mais non, moi j'ai fait un de mes courts-métrages qui s'appelle « Entre l'absence et l'oubli » qui était le prétexte, c'était une image.
Oui.
Parce qu'une fois j'ai photographié quelqu'un, j'ai demandé à quelqu'un de lui faire un portrait qui est simple. Et il m'a posé la question, il m'a dit « Pourquoi tu veux faire ma photo ?» Et j'ai trouvé cette question, elle est très sympa.
Oui.
Et j'ai fait un film sur ça, « Entre l'absence et l'oubli », quelqu'un qui a trouvé une photo dans un marché aux puces. Et donc, il va chercher le monsieur qui est dans cette photo, c'est qui, comment, etc.
Et alors, justement, il y a cette question de la théâtralité dans tes,
oui,
images,
oui.
Qui est très important. Et évidemment, le noir et blanc. Alors, on parlait tout à l'heure des photographes de la couleur, hein,
oui.
Henri Gruyère, dont on a montré des images récemment, vraiment des photos extraordinaires. Est-ce que tout de suite le noir et blanc s'est imposé pour toi et qu'est-ce que ça représentait pour toi ?
Ben, c'était aussi l'influence de Cartier-Bresson, aussi, il faut dire la vérité. Au départ, Cartier-Bresson, il ne voit pas une image en couleur. Peut-être lui, et pourtant lui, il a beaucoup voyagé, il était,
ouais,
en Inde. L'Inde, c'est aussi le paradis,
ouais,
de la couleur.
Apporter des images en noir et blanc d'Inde,
ah ben, ouais, voilà. Donc,
c'est le même défi.
Il a fait beaucoup,
hein,
de magazines,
ouais.
Mais à l'époque, peut-être, je ne sais pas, il y a une abstraction dans le noir et blanc.
Ouais.
C'est-à-dire le noir et blanc... Ça pousse beaucoup à l'imaginaire, je le pense, moi. C'est-à-dire maintenant, moi, je suis maintenant de la couleur. C'est-à-dire maintenant, je suis revenu parce que au Maroc, on ne peut pas. Demain, et là, l'expo, je fais maintenant, c'est la première fois où je montre
de la couleur.
Mais c'est différent. C'est pas la même approche que le noir et blanc. Mais quand même. C'est des choses, et comme ce que vous avez dit, moi hier, il y avait une photo que je n'ai jamais regardée, moi. C'est Nathalie qui l'a trouvée, c'est son choix. Et j'ai trouvé à l'entrée, il y avait la fête foraine et tous les gens, il y avait un monsieur tout à fait loin qui embrasse la tête de sa mère ou de quelqu'un autour. Moi, je ne l'ai pas vu, moi, dans mon viseur, cette partie-là.
Ouais.
Et je trouvais que c'est une complémentarité au premier plan, à tout ce qui se passe au premier moment, ce que j'ai vu. Mais sincèrement, je ne l'ai pas vu.
Bien
moi,
sûr.
J'avais à l'époque, j'avais un petit Leica télémétrique. Je ne regarde même pas dans le viseur parce que, vous savez, ici au Maroc, l'image, elle est bannie. Les gens n'aiment pas être photographiés.
Oui.
Moi, lorsque je voyage, par exemple, en Europe, je suis heureux. Parce qu'en Europe, aux États-Unis, on peut mettre l'appareil sur la figure de quelqu'un, il ne dit rien. Au Maroc, non. Au Maroc, dès qu'on a un appareil photo, on est intrus. Moi, ça m'arrive souvent. Moi, j'étais souvent, il y a beaucoup de... Parfois, j'ai eu beaucoup de problèmes au Maroc avec des gens, mais ben, comme ça. Mais j'essaie toujours de leur expliquer que c'est quand même, je suis comme un anthropologue ou un ethnologue.
Oui, c'est tout à fait ça.
Bah, bien sûr, parce que les images, elles vieillissent bien. Maintenant, moi, j'ai un trésor sur le Maroc. Franchement, j'ai un trésor. C'est-à-dire, ça, c'est ce que je vais laisser après.
Alors, est-ce que tu dirais justement que ton œuvre en photographie fonctionne un peu comme... comme une grande fresque sociologique sur le Maroc?
Exactement, et bien sûr, c'est comme je dis, parce que ça vieillit. C'est-à-dire, moi maintenant, la Mamounia que je connaissais avant, ce n'est pas la Mamounia de maintenant. Oui. Même là à côté, il y a le jardin là, juste à côté, où je jouais au foot lorsque j'étais petit et tout. Alhamdoulilah, il n'y a plus.
Oui.
C'est-à-dire, déjà, là où j'habitais mon quartier, maintenant on a des immeubles. C'est aussi un apport sociologique, comme je dis.
Moi, si j'étais pas photographe, bien sûr,
oui. Moi, je dis, je suis plutôt anthropologue ou ethnologue. Ce que j'essaie aussi de faire dans mon cinéma, c'est de garder des traces du passé. Il y a toujours des traces.
Alors maintenant, si on parle un peu plutôt d'avenir, justement, est-ce que quel est ton regard? Parce qu'il y a évidemment une modification fondamentale aujourd'hui dans le monde de la photographie, avec la profusion d'images, les réseaux sociaux, les images faites par la mobilophonie, etc. Est-ce que tu es en lien avec la jeune photographie marocaine? Est-ce que tu as des disciples autour de toi?
Non.
Et qu'est-ce que tu leur conseillerais justement de faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'editing de la photo. On prend tellement d'images. Que garder, que conserver, comment fabriquer un corpus qui tient la route? Et comment redonner de la valeur à une image par rapport aux 36 de la mitraillette photo? C'est un vrai sujet, ça.
Oui, mais ça, moi, je ne sais pas. Chacun a son approche. Moi, je commence avec l'argentique. Donc, moi, j'ai gardé dans mon approche tout ce côté avant.
Oui.
C'est-à-dire d'avoir le temps, de ne pas photographier beaucoup, de me documenter, d'aller voir aussi, d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Donc j'ai gardé ça, mais maintenant je fais des images sur Instagram parce que Nathalie, elle m'a poussé à les faire.
Et tu aimes les réseaux sociaux?
Pas du tout, je les déteste. Maintenant, moi j'ai un calendrier pour ne pas dépasser le nombre, disons... Je ne dépasse pas une demi-heure par jour, mais je me force. Je m'efforce parce que c'est la discipline, c'est comme tout. Parce que si je commence à regarder ça, ben, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Je ne vais plus lire. Je ne vais plus regarder mes films. Je ne vais plus aller au bistrot avec mes amis. C'est-à-dire que tu maintenant... Moi, là, dernièrement, j'ai vu une photo dans le train. J'en ai fait une dans le train, une dans l'avion. J'adore. Dans le train, dans un compartiment, j'ai fait une photo. Tout le monde regarde sans... Tout le monde, il est sur son mobile. Aucun a un livre ou une revue comme ça.
Ouais.
Aucun, tout le monde.
Ça, j'espère qu'il y a des jeunes qui nous
l'avion,
écoutent.
L'avion, pareil. J'ai fait une photo dernièrement. C'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'il y a quelqu'un qui dormait dans l'avion. Il a pris trois... Parce que l'avion était à moitié vide. Il dormait, j'adore ça. Et à côté, il y a toute une famille. Le père, la mère, les deux enfants.
Tout le monde est
sur le mobile, les quatre. Et le monsieur... Maintenant, tout le monde est sur le mobile, donc j'essaie d'être discipliné, mais c'est difficile, je ne sais pas...
Oui, bien sûr, on est tous mis au défi de cette discipline.
Mais au moins, je dis attention, là, il faut faire attention de ne pas toujours... Par exemple, les revues, les magazines, moi, je me rappelle, avant, je me lève le matin, je vais aller acheter mes journaux. J'achète 3-4 journaux, j'ai des magazines, ben maintenant, je n'achète plus rien.
Oui, on lit tout sur la tablette. Dans...
Moi, j'ai des sites le matin, voilà. Donc... Et aussi, la photographie, elle a beaucoup évolué, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire, on est en général. Maintenant, la majorité des photographes, je pense, moi, parce que moi, je ne connais pas la photographie des jeunes de maintenant. Parce qu'on n'a pas de lien entre nous.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, on avait des ciné-clubs, on va aller rencontrer des gens. Maintenant, tout est Instagram et tout, mais on n'a pas le contact comme ça, direct. Et donc, ce que je regarde, c'est qu'il y a beaucoup une évolution de la photographie. Et puis, il est devenu presque plasticien, cette photographie.
Oui.
C'est-à-dire, il a un peu immigré du côté documentaire dans lequel on parle. La photographie de maintenant, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de photographes. Moi, je ne dis pas que ce sont des photographes, je dis que ce sont des plasticiens. Parce qu'ils travaillent sur la photographie comme un médium, comme un outil pour s'exprimer. Mais ce n'est pas la photographie que moi j'ai...
Monsieur.
Traditionnel, je ne dis pas traditionnel, mais je dis comme avant.
sans compter la question des tirages. Sans compter la question des tirages. Parce qu'il y a beaucoup d'images et peu de photographies, enfin.
Ben voilà, il y a beaucoup maintenant. Tout ça, c'est l'évolution de Photoshop, de Lightroom, de toutes ces, voilà, de ces techniques. Moi, j'ai vu des photos, on enlève quelqu'un. Moi, maintenant, je vais faire l'affiche de mon fil. Le gars me fait une affiche, il me dit, dis-moi ce que tu veux. Je lui dis ça, tout de suite, avec l'ordinateur. Il me met des gens, il efface tout le monde, l'arrière-plan. Alors que nous, on était sur les détails. Parfois, on a des images, on regrette, on a des zut. Oh, il aurait dû mettre pas sa main ici, mais là. Parce qu'on est à une fraction de seconde. On s'en fout. Maintenant, on efface, il a les gants. Et moi, je m'amuse avec ça aussi, parfois.
Ouais.
Maintenant, on avait des tirages où il y avait de la poussière. Maintenant, pour enlever la poussière, on a une gomme électronique. C'est un autre monde.
C'est un autre monde.
C'est plutôt un monde beaucoup plus pour un autre imaginaire que le monde. C'est-à-dire, cet imaginaire, il est un peu éloigné de la vie. C'est-à-dire, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de contact. C'est-à-dire, maintenant, avec vous, je suis content parce qu'on se voit, je vois tes réactions, vous voyez mes réactions, on est là. Faire un truc, par exemple, sur Skype ou sur Zoom.
On en parle toujours avec Nabil, moi c'est pareil.
J'ai raté beaucoup de bourses à cause de le Covid, à cause de Skype. Parce que les gens me disent que je suis bien comme ça, parce que je suis enseignant, donc j'adore le contact, l'improviste. Mais sur Zoom ou Skype, je suis bloqué parce que je ne vois pas l'autre.
C'est pareil. Moi, comme je suis une grande anxieuse, si je ne vois pas le visage de la personne, si je n'ai pas la lecture des expressions de la personne en face de moi.
Maintenant, on peut faire des photos. Dans son salon, avec son ordinateur, on peut faire ce qu'on... comme la musique.
Tout à fait.
Maintenant, on peut composer avec son ordinateur. Ah, ben moi, je ne suis plus de ce temps-là. Moi, je suis un vieux. Non, mais je suis un peu nostalgique de ça.
Et du coup, de quelle manière tu continues à t'astreindre à ta pratique sociologique de capter des instantanés? Et parce que j'imagine qu'évidemment, les instantanés de rue, à part le fait que 2/3 des personnes sont sur leur téléphone, on arrive quand même encore, tu arrives encore à avoir ta pratique photographique. Ta dernière série en date, elle a été prise où?
Moi aussi, les questions de série, je ne sais pas,
Tu ne parles pas en termes de série.
Moi, je n'aime pas les séries.
Tu fais des photographies.
Moi, je photographie ce que je retrouve, ce que je rencontre. C'est comme...
Et c'est ta galeriste qui fabrique des corpus d'exposition.
Avec Nathalie, on parle beaucoup. Et moi, j'ai de la chance d'avoir Nathalie avec moi parce qu'elle quand même, elle s'occupe de moi. C'est ma deuxième femme quand même. Moi, j'en ai une femme, j'ai une deuxième. Non, c'est vrai. S'il n'était pas là, moi, j'aurais dû pas faire cette expo parce que je suis ailleurs. Parce que moi, c'est pas l'expo qui... C'est pas elle. Je ne fais pas d'expo. Parce que nous, on est ailleurs, on est dans la fabrication. C'est-à-dire, moi, maintenant, je termine mon film là, je veux commencer l'autre, peut-être la fin de l'année, il faut que je le prépare. Donc, je n'ai pas le temps pour dire, voilà, je m'arrête, je vais faire un...
Quel est ton prochain projet cinématographique?
Celui-là. Et d'abord, il va sortir, là, je le termine, il s'appelle Le Lac Bleu. C'est aussi sur la photographie invisible, parce que c'est un petit jeune photographe aveugle, de naissance, et qui va partir avec son grand-père dans le désert, faire un voyage, accompagner son grand-père, et il va faire tout le récit de ce voyage photographiquement, alors qu'il n'a jamais vu, avec un appareil photo.
Voilà. C'est beau, c'est
donc
très
on
poétique.
Est toujours dans cette dualité du visible, invisible, et dans ce film-là, ce que je le dis, j'ai un gros problème, mais moi j'ai trouvé ma solution. Est-ce qu'on montre les photos de cet enfant dans le film ou on ne les montre pas?
On les montre dans une exposition.
Et c'est des photos réelles que l'enfant il a fait. C'est-à-dire, c'est parce que moi, avant de faire ce film-là, j'ai fait déjà un documentaire dans un institut pour les mâles et non-voyants. Et donc, j'ai initié des enfants à faire de la photographie. Et lorsqu'il me dit, Daoud, mais attends, un aveugle qui va faire des photos, non. Ben, je lui dis, oui. Vous allez voir, c'est magnifique. Parce qu'il y a toute la qualité du cadrage. Parce que cadrer une photo, c'est quoi? C'est subjectif.
C'est très subjectif.
Ben oui. Et moi, j'ai adoré. Et cet enfant-là, c'est vrai, il a fait un travail fabuleux. J'ai tout. Parce qu'on lui a donné un appareil photo. Et pendant 4 semaines, elle a photographié. Et donc, j'ai gardé tout. Et c'est vrai, on a pensé aussi de faire une photo, une expo de cet enfant-là.
Très poétique comme projet.
Oui, j'espère bien.
Daoud, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci
à vous. C'était passionnant.
Moi aussi.
Et on va donc aller voir ton exposition
avec
actuellement.
Avec un grand plaisir.
Alors, je sais pas à quel moment passera l'épisode, mais voilà. Merci beaucoup.
Eh ben, merci à vous.
Hein. Merci. Un immense merci à notre invité d'avoir pris part au podcast Diptyque et un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien continu. Si cet épisode vous a captivé, nous serions ravis d'entendre vos impressions sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Le podcast Diptyque est rendu possible grâce au généreux soutien de Maroc Télécom. Il est produit par Aros Konpoyo, montage assuré par Simo Bakrim. Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca, au Maroc. Vous trouvez le dernier numéro en kiosque partout au Maroc, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter hebdomadaire online sur www.diptyquemag.com. À bientôt pour le prochain épisode.